Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous parlons de humanité et divinité du Christ, sa divinité et son humanité qui ne sont pas en opposition. Mais du coup, cela me renvoie à la question de la représentation du Christ. Quand on représente le Christ, c'est l'humanité qui est mise en avant, et de manière toute particulière dans les icônes. Mais quand on montre la part de cette le Jésus-Christ, vrai Dieu, mais aussi vrai homme, l'icône est une conséquence de cette affirmation de foi.
Oui, et c'est tout à fait juste, y compris d'ailleurs les statues en Occident. Il ne faut pas s'imaginer que les décisions conciliaires n'auraient concerné que les objets à deux dimensions, comme si la troisième dimension devait nécessairement disparaître par l'effet de l'art. Non, ce que le concile de Nicée II, qui est le septième concile œcuménique, a défini, il a évidemment parlé surtout des icônes, parce que c'était l'art byzantin de l'époque. On représentait le Christ en mosaïque, on représentait le Christ en fresque, on représentait le Christ sur des icônes peintes. Et à chaque fois, c'était ce visage de la véritable humanité qui apparaissait. Et il y a eu différents courants qui se sont posé des questions et qui ont eu du mal, d'une certaine manière, à recevoir cet enseignement, je dirais, traditionnel. On le voit déjà un petit peu apparaître avec Eusèbe de Césarée, puis avec les courants, je dirais, iconoclastes du 8e siècle. Probablement la montée de l'islam a joué beaucoup, car les empereurs byzantins parfois reconquéraient des parties soumises à l'islam et voulaient assimiler ces populations. Or, ces populations étaient très rétives à tout ce qui était représentation. Nous savons que dans l'islam, il est absolument interdit de représenter Dieu, de représenter les anges, de représenter une quelconque figure céleste, voire même, assez plus tardivement, leur prophète Mohammed. En tout cas, de nos jours, plus personne n'ose représenter le prophète Mohammed, même si on a des images d'Orient et d'Extrême-Orient, on voit facilement représenter Mohammed, mais les choses se sont durcies avec le temps, et donc les représentations sont interdites. Quand vous allez dans une mosquée, vous n'aurez que des entrelacs de lignes, mais vous n'aurez jamais de visage. Et donc, c'est contraire à la définition même, je dirais, de l'islam. Pas de représentation, pas de mélange entre Dieu et l'humanité. Tout l'inverse, finalement, du christianisme.
Eh oui.
On est aux antipodes, puisque le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, s'est vraiment fait chair. Il a vraiment assumé une humanité complète, réelle, à tel point qu'on peut dire que cette identité personnelle du Verbe, Verbe fait chair, ne nuit pas ni à sa divinité, ni à son humanité. Un grand théologien de l'icône du Christ, le cardinal Christoph von Schönborn, qui est actuellement l'archevêque de Vienne en Autriche, disait: seule l'identité personnelle de l'humanité de Jésus avec le Fils de Dieu sauvegarde cette possibilité, c'est-à-dire de représentation, de même que seule la consubstantialité du Fils au Père, tant défendue par saint Athanase, fait de l'un l'image parfaite de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une possibilité, si vous voulez, de comprendre que quand nous voyons la nature humaine de Jésus, c'est vraiment le Verbe que nous voyons. Qui me voit le Père, osera dire Jésus. C'est quand même très fort quand on pense à cette expression. Qui me voit le Père. Alors que nous savons que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et le prologue de l'Évangile, d'ailleurs, de saint Jean le redit. Nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique l'a fait connaître. Et ces paroles dans Saint Jean un peu plus après, qui me voit, voit le Père, nous fait comprendre que nous voyons quelque chose de la personne divine dans sa péricorèse, dans sa circumcision avec le Père, et que d'une certaine manière, on voit à travers le Fils, on voit le Père. Et cette merveille du christianisme qui fait que Dieu se révèle à les yeux ouverts en quelque sorte, et nous rend beaucoup plus accessible le mystère divin, sinon c'est un Dieu transcendant, totalement inaccessible. Et cette icône de Jésus nous aide beaucoup à rentrer dans le mystère trinitaire. Et nous avons donc dans l'expression du catéchisme un très beau condensé, si vous voulez, de ce septième concile œcuménique qui nous dit: puisque le Verbe s'est fait chair en assumant une vraie humanité, le corps du Christ était certes délimité. À cause de cela, le visage humain de Jésus peut être dépeint, et on cite Galates chapitre 3 verset 1, où le mot effectivement est utilisé, donc le mot dépeindre est vraiment dans l'écriture, pro et graphé. Au septième concile œcuménique, l'Église a reconnu comme légitime qu'il soit représenté sur des images saintes. Et déjà, le pape Grégoire le Grand avait représenté l'utilité de ces images dans les églises, en particulier pour les gens qui n'étaient pas instruits, qui n'étaient pas capables de lire l'Évangile. Ils pouvaient le lire sur ces représentations. Mais là, le Concile va plus loin. Il dit qu'on atteint même, si vous voulez, la vérité de l'identité de Jésus. C'est ce que dit le paragraphe suivant, le 477. En même temps, l'Église a toujours reconnu que dans le corps de Jésus, Dieu, qui est par nature invisible, est devenu visible à nos yeux. En effet, les particularités individuelles du corps du Christ expriment la personne divine du Fils de Dieu. Celui-ci a fait sien les traits de son corps humain au point que, dépeints sur une image sainte, ils peuvent être vénérés, car le croyant qui vénère son image vénère en elle la personne qui est dépeinte. Magnifique citation de Nicée II en 787, reprenant un peu le mot de Galates 3.1 au lieu de proégraphème, egegraphomenou de Nicée II, mais la racine est la même, c'est graphé, c'est-à-dire je peux dépeindre, je peux marquer. Le peintre, bien sûr, doit prendre une attitude intérieure de grande intériorité, de grande réserve pour être agi par le Saint-Esprit. Il y a une prière à dire, il y a un jeûne à suivre pour les grands maîtres d'écriture d'icônes, et ils rentrent dans un désir vraiment d'être au mieux de leur propre nature humaine pour pouvoir réaliser cette vérité. Alors, est-ce que ça veut dire que la matière qu'ils utilisent, le jaune d'œuf, les couleurs, etc., deviendrait saint? Non, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Ce n'est pas la matérialisation de Jésus dans les icônes. C'est toujours sa personne, c'est le fait de remonter à sa personne. Sinon, je risque très vite de tomber dans une espèce de matérialisme. Et de fait, il y a eu ce courant dans les églises byzantines qu'à une certaine période, à Constantinople, il y a des moines prêtres qui avaient un petit peu perdu la grande théologie de Nicée II, un peu avant ou un peu après. Eh bien, au cours des célébrations des saints mystères, dans la liturgie de Saint Basile ou de Saint Jean Chrysostome, faisaient venir une icône sur l'autel, et pour rendre les espèces du vin plus apte à être consacré, gratouillait le bord d'une icône et faisait tomber un peu de matière dans la coupe qui allait servir à la consécration. Erreur manifeste, si vous voulez, un peu comme en Occident quand on a matérialisé parfois l'hostie, où des paysans allaient enterrer une hostie dans leur champ en espérant que la récolte serait meilleure. C'est de l'utilitarisme, c'est utiliser quelque chose qui, effectivement, est porteur, mais dans une mauvaise direction, dans un mauvais sens. C'est un utilitarisme déviant. Et on a connu ça, que ce soit en Orient, en Occident, cet utilitarisme déviant. Non, l'icône nous permet seulement de remonter à la personne. Et c'est pour cela qu'elle doit être faite dans une situation la meilleure, pour qu'il n'y ait pas dans la représentation quelque chose qui bloque cette remontée vers la personne de Jésus. Donc c'est vraiment la personne qui est représentée et qui est assumée en quelque sorte dans les conséquences de l'incarnation. Et Jésus assume ces icônes qui sont faites de lui-même, c'est vraiment son visage. Il a déjà, au cours de sa passion, accepté que cette femme, que l'on a appelée du coup Vère Onique, la véritable icône, mette sur son visage un tissu dans lequel Jésus a miraculeusement donné une effigie de lui-même et qui a été portée au roi d'au-delà du Limès, justement vers l'Arménie, en souvenir de cette passion. Et Sainte Véronique est restée dans les annales de l'histoire, un très grand moment de l'histoire de la passion où Jésus a montré la possibilité qu'il y avait de conserver son image. Le linceul de Turin, c'est exactement la même dévotion. On reconnaît les traits de Jésus dans vraiment ces marques de sang sur ce linceul, et ça nous permet de remonter à la personne de Jésus.
Mais alors, on comprend mieux, oui, quand tu dis Jésus a assumé ce qui est la conséquence de l'incarnation, et de fait, le fait que peindre quelque chose, ça passe par des techniques, ça passe par une inspiration. Parce que sinon, quand on lit dans le 477 que tu disais tout à l'heure, les particularités individuelles du corps du Christ expriment la personne divine du Fils de Dieu, on pourrait se dire, de même manière que dans l'Écriture, certains voudraient avoir le texte, le vrai texte du départ, on pourrait dire, on voudrait la photo.
C'est ça, exactement. Mais jamais il y aura la photo. Ce sont seulement des particularités individuelles qui aident à aller à la personne. C'est la personne que nous vénérons, et d'ailleurs le mot proskunesis est utilisé dans la définition de Nicée II, c'est-à-dire la vénération qui va à travers l'humanité jusqu'à l'adoration du Verbe, parce que le but c'est bien de remonter au Verbe. L'humanité de Jésus ne sera qu'une réalité créée, quoi qu'il arrive. Voilà.
Merci, frère Édouard.